Alors, la diversité sur nos écrans, que ce soit la télé, le cinéma, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones, disons que c'est encore pas mal hétéro ce qu'on voit, c'est genre puis blanc. Puis pas beaucoup de personnes en situation de handicap non plus. Et quand les diversités sont à l'écran, c'est souvent parce qu'on parle de la diversité et de ces situations. Le Fonds des médias du Canada s'associe donc à Pink Triangle Press, l'une des plus anciennes organisations médiatiques de LGBTQIA+ au monde, pour lancer une initiative visant à encourager la diversité dans les industries canadiennes du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeu vidéo. Et pour en parler, on reçoit par visioconférence Mathieu Chantelois, qui est le premier vice-président marketing et affaires publiques du Fonds des médias du Canada. Allô, Mathieu!
Bonjour, Denis Martin Chabot.
Oui, nous, on se connaît de longue date, hein? En fait, moi, je vais vous dire qu'on connaît Mathieu aussi pour certains et certaines. Il a été journaliste, notamment à La Presse, à Voir, à Radio-Canada. Il a été animateur à Pride Vision, qui est l'ancêtre de Out TV. Ça nous rajeunit pas, ça, Mathieu.
Non, pas du tout.
On l'a vu souvent aussi quand on allait au cinéma parce qu'il anime les entrevues avec des vedettes dans la programmation qu'on vous présente avant les films. Mon Dieu, j'en dis bien des choses sur toi aujourd'hui, Mathieu. Il détient une maîtrise en journalisme à l'Université Carleton d'Ottawa. D'abord, Mathieu, on dit quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
Alors, j'utilise le pronom il et lui. Content d'être avec toi ce soir, Denis Martin.
Ah, c'est vraiment le fun de se revoir. Alors, écoute, je pense qu'on va commencer par expliquer aux gens. Moi, je sais c'est quoi parce que j'ai travaillé dans l'industrie longtemps, mais le Fonds des médias du Canada, qu'est-ce que c'est?
C'est un organisme qui est un bailleur de fonds pour aider à peu près tout le monde dans l'industrie de la télé, des jeux vidéo, beaucoup du documentaire, des émissions pour enfants aussi. On reçoit beaucoup d'argent, des millions de dollars des câblos diffuseurs, mais aussi de patrimoine canadien du gouvernement fédéral. En tout, c'est 360 millions de dollars qu'on reçoit par année et que par la suite, on redistribue à peu près tout le monde qui a des histoires à raconter à travers le pays. Mais soyons honnêtes, au fil des ans, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent cogner à notre porte et qui demandent de raconter des histoires. Et tu en as parlé, Denis Martin, c'est souvent des gens cisgenres, des gens hétérosexuels et des gens qui, peut-être après plusieurs années, commencent à raconter la même histoire. Il est grand temps, on est tous d'accord là-dessus, d'ouvrir les portes et de s'assurer que le système soit accessible à tout. Et je ne veux certainement pas dire par là que les gens, les producteurs et les réalisateurs, les réalisatrices qu'on a au pays et qui ont fait des histoires magnifiques au cours des dernières années devraient arrêter d'en faire. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour beaucoup de monde, entre autres pour les personnes de notre communauté, de la communauté queer.
Bon, alors, on vient d'établir donc ce partenariat, donc c'est son importance, c'est ça, justement, d'offrir des nouvelles voix qu'on entend moins, ou peut-être d'élever le son un peu pour qu'on les entende mieux. Alors, concrètement, comment ça va fonctionner?
Mais ce qu'on voit beaucoup au pays, surtout depuis le début de la COVID, c'est la création de beaucoup d'écrans. Il y a le bureau de l'écran noir, le bureau de l'écran autochtone, il y a l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran qui ont été créés, qui sont des organismes qui s'y servent un peu de chien de garde, qui regardent ce qui se fait sur les écrans et qui voient où il y a des problèmes, où on a besoin de protocoles, de guides, de modèles pour savoir les façons dont on doit faire les choses correctement. Par exemple, quand on travaille avec les communautés autochtones, ben il y a certaines façons dont on doit filmer, raconter des histoires qui est complètement différente du modèle colonial qu'on connaît présentement. Puis la même chose s'applique avec les communautés afrodescendantes, les communautés racisées, les personnes en situation de handicap. Et là, je pense qu'il est temps de se poser la question de voir quels sont les besoins de la communauté queer, quelles sont les façons, quels sont les guides, quels sont les modèles, les protocoles qu'on doit se donner pour être capable de bien raconter nos histoires. Alors, au Fonds des médias, on prend ça extrêmement au sérieux et on a des programmes de développement du secteur, de l'industrie, et on a décidé d'aller voir nos amis à Pink Triangle Press, tout simplement parce que c'est le plus gros organisme national qui travaille dans l'industrie des médias depuis des décennies, et de voir avec eux qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider directement la communauté queer? Alors, ça fait des mois qu'on parle et on est arrivé avec une idée qu'on trouve intéressante. Dans les prochains mois, on va avoir beaucoup de sondages, de tables rondes, de panels avec des gens qui travaillent dans l'industrie pour voir où sont les besoins, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que des gens ont accès à la caméra, accès au micro, se retrouvent ou se retrouvent pas devant la caméra pour essayer de voir ce qu'on peut leur donner, quels sont les outils dont ils ont besoin pour qu'on soit capable de raconter les histoires de la communauté queer et que ça soit des gens devant et derrière la caméra qui sont queer, qui participent à raconter ces histoires-là. Dans plusieurs mois, on va voir quels sont les résultats. Et pour la première année, Pink Triangle Press va publier en anglais, mais en français aussi, où sont les manques à gagner? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, collectivement, pour être en mesure de raconter nos histoires?
Parce qu'éventuellement, quand ce sont nous qui racontons nos histoires, ben, on a la chance, on a probablement, j'étais pas dire, on risque d'avoir une histoire qui est peut-être plus vraie qu'autre chose aussi. Puis l'entrevue précédente, on parlait justement de toute cette désinformation qui se fait sur notre compte. Alors peut-être que si on commençait à raconter nos propres histoires, on réussirait peut-être à un peu contrer ça, là.
Oui, c'était extrêmement touchant d'entendre tes intervenants juste avant moi parce qu'effectivement, le problème est de taille. On doit s'y attaquer et on doit s'assurer que justement, on est à la table lorsque les décisions se prennent. C'est beau d'avoir un gars gay qui joue un personnage gay dans une série où il y a un homosexuel, mais ça s'arrête pas là. C'est la même chose lorsqu'on a une table de concertation, on va discuter de l'avenir des personnes trans et non-binaires. Au Québec, on doit s'assurer que les bonnes personnes soient assises à la table, hein, qu'en bout de ligne, lorsque les décisions se prennent, lorsque les décisions importantes se prennent, les gens qui ont l'argent, les gens qui sont producteurs, les gens qui sont réalisateurs, ben, que ça soit aussi des personnes d'une identité queer. Alors, c'est là-dessus, je pense qu'il faut extrêmement travailler. Et étonnamment, nos voisins du Sud ont un peu une petite longueur d'avance avec nous parce qu'il y a un organisme qui s'appelle GLAAD.
Oui.
Aux États-Unis, qui est un organisme qui fait beaucoup de ce travail-là. Donc, ce que GLAAD fait et ce que j'espère qu'on va être capable de faire dans un an ou deux au Canada, c'est d'immenses galas, des cérémonies de remise de prix, tant à Los Angeles qu'à New York, où les productions queer de qualité qui représentent nos réalités sont récompensées. Alors, ce que ça fait, c'est que ça met en lumière, ça met sur des tapis rouges des artisans de notre industrie, puis ça donne envie aux gens d'aller voir ou de comprendre même ce qui est disponible. Juste d'aller sur le site de GLAAD présentement et de voir la liste des nommés chaque année est super inspirante. Il y a des belles choses qui se font. Il y a des Canadiens qui gagnent chaque année. Alors, pourquoi pas essayer de reprendre des modèles comme ça qui sont extrêmement positifs pour avoir une lumière nouvelle sur les productions qui se font chez nous, tant en français, en anglais, mais aussi en langue autochtone.
Alors, on va parler un petit peu de toi parce que c'est pas nouveau pour toi de mettre de l'avant ces questions-là. La représentativité à l'écran, là, c'est un sujet qui tient à cœur, notamment parce que tu as des enfants.
Oui.
Et si tu me permets, hein, je parle de ta vie privée, mais c'est parce que tu
Ben
m'as dit que je
non,
pouvais le
ben
faire.
non.
Alors, tu
Oui.
aimerais que tes enfants puissent voir des familles queer puis auxquelles ces enfants-là pourraient s'identifier. Parle-nous donc un petit peu de ce parcours personnel de.
Ben oui, j'ai la chance, l'immense privilège d'être le papa avec mon conjoint de deux jeunes enfants. Mon fils a 3 ans et demi, ma petite fille va avoir 2 ans la semaine prochaine. Et de plus en plus, je commence à m'intéresser à ce qu'il y a sur des écrans pour eux. Pas parce que je veux que mon fils de 3 ans et demi ou ma fille de 2 ans passe encore beaucoup de temps devant les écrans. Hein. En papa responsable, j'essaie de limiter les écrans le plus possible. Mais en même temps, ça me touche de voir que des réalités comme la mienne se retrouvent pas du tout sur les écrans. En plus, mon conjoint est chilien. On parle en espagnol et en français à la maison. On a deux papas de deux enfants. Deux enfants racisés. Des réalités comme la mienne, on est à des années-lumière de les voir sur les écrans. Puis là, je pense à ma réalité, mais ce n'est pas celle-là en particulier que je veux voir sur les écrans, mais vraiment une vérité plurielle, que des gens puissent se reconnaître, qui ne se reconnaissent pas du tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'écouter un épisode d'une émission qui est à Disney présentement, mais qui est une émission canadienne qui s'appelle Dino Ranch, où c'est deux dinosaures. Papa, mais futur papa, qui essaie de comprendre comment ils vont avoir un bébé. Et c'est la seule émission que j'ai écoutée avec mes enfants, la version française. Et eux, ils faisaient juste trouver ça agréable, amusant. Puis enfin, leur papa leur laissait écouter la télé. Mais moi, j'avais des larmes aux yeux. C'est la première fois que je voyais quelque chose à la télé qui ressemblait à mes réalités. Pourtant, ce n'était pas ma réalité du tout. Hein, je suis pas un dinosaure. Mais il y avait quelque chose là-dedans de profondément touchant. Et c'est des choses comme ça, je pense, qu'on doit voir à l'écran.
Et surtout que là, tes enfants sont tout jeunes, ils n'ont pas encore été exposés à la haine qui, parce qu'on en a parlé à l'entrevue précédente, ça t'inquiète pas un peu ça de cette espèce de climat qui n'est pas très sain présentement puis qui semble persister?
Non, ça m'inquiète beaucoup. Et maintenant, en tant que père gay, j'ai l'impression de faire partie d'une minorité au sein de ma propre communauté. Je le ressens beaucoup. Puis je me retrouve devant une discrimination à laquelle je n'ai jamais fait face, où j'arrive à la garderie, puis que la directrice me demande c'est qui le papa, puis c'est qui la maman dans notre relation, où j'ai des gens au parc. Qui veulent pas que nos enfants jouent avec leurs enfants, des choses que j'avais pas vu venir, qui m'inquiètent énormément. Et j'écoute les nouvelles, et le sang me glace. J'ai très, très peur pour mes enfants. J'ai peur aussi, pour la communauté queer en général. Je pense souvent, souvent, aux gens trans et non binaires. Il reste tellement de travail à faire. Puis c'est plus important que jamais qu'on se retrouve sur nos écrans, puis que collectivement, ensemble, on se serre les coudes pour être capable de faire un travail tellement important qu'on a devant nous.
Et puis je terminerai avec ça. Tu travailles quand même sur un festival, une première, non, plus qu'une, une première série de LGBTQIA+, là, au Festival de films pour enfants de Montréal. Parle-nous de ça rapidement.
Oui, à la prochaine édition du Festival international du film pour enfants de Montréal, il y aura des courts-métrages présentés en collaboration avec Imagination qui mettent en image des réalités différentes familiales. Alors, je pense que ça va être très, très intéressant. J'espère que mes amis qui sont papa et maman ou parents queer s'y retrouveront pour qu'on promène nos familles ensemble et montrer aux autres familles qu'on est tous là-dedans, tous différents, mais tous semblables en même temps, puis que nos réalités familiales sont belles, puis qu'il faut les vivre dans le plaisir, dans l'enthousiasme et dans l'amour.
Mathieu Chantavoie, c'est un plaisir de te retrouver après quelques années. Moi, je te voyais souvent chez Cineplex avant parce que tu faisais ces petites entrevues là avec les vedettes. Alors là, tu es maintenant devenu patron, mais on va quand même se jaser beaucoup. Puis merci d'avoir été là.
Merci, c'est un plaisir. Au
Alors, c'est
revoir.
Mathieu Chantavoie qui est premier vice-président marketing chez Fonds canadien des médias.